telescope of pressing you on a point you seem reticent to discuss, may I ask you a straightforward question?
Well, certainly.
Quite frankly, we have had some very reliable intelligence reports that quite a serious epidemic has broken out into clearance. Something apparently of an unknown origin.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce sixième épisode de Force et Houblon, chronique d'un enfermement. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vulgariser quelque chose et de vous l'expliquer de façon compréhensible, mais vous allez voir que nous allons parler de la paix des cimetières, mais peut-être pas forcément dans le sens dans lequel vous l'entendez. Le 9 avril 2020 s'est tenue une réunion de l'Eurogroupe. En gros, c'est la réunion des ministres des Finances de chaque pays de l'Union Européenne, pour justement parler de quelles solutions pourrait ramener l'Union Européenne sur la table. Donc, en gros, il faut comprendre quel argent va-t-elle débloquer, parce que le reste, ça me paraît plus compliqué. Après moult tractations, une enveloppe a été débloquée de 500 milliards d'euros. Tout le monde s'en est félicité, tout le monde était content, et puis tout le monde est rentré chez lui, du moins jusqu'à la prochaine réunion de l'Eurogroupe. Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, a d'ailleurs dit que c'était un grand jour pour l'Union Européenne. Sauf que derrière les discours de façade se cache la réalité, et c'est ça que je vais vous expliquer avec un peu plus de rigueur. Déjà, nous pourrons notifier qu'il y a, comme trop souvent, une séparation en Europe qui est, pour schématiser, l'Europe du Sud contre l'Europe du Nord. Encore une fois, ça s'est vérifié. L'Allemagne, les Pays-Bas, avec un petit peu l'Autriche et la Finlande, ont décidé bien de faire fi des propositions qu'avait amenées sur la table l'Europe du Sud, qui pourrait être composée ici particulièrement de l'Italie et de l'Espagne, par rapport au fait de vouloir mutualiser la dette de tous les pays qui se sentaient concernés, bien évidemment, c'était plus particulier pour la zone euro, pour pouvoir un petit peu, par le biais de la mécanique de la Banque Centrale Européenne, d'aller acheter d'aller chercher du financement plus facilement sans avoir à trop un petit peu s'endetter, parce qu'en fait on lissait un peu les choses, c'est un petit peu complexe, mais vous voyez c'est un peu l'idée, c'était pour éviter que les dettes de tous les pays explosent de façon exponentielle, surtout pour ceux qui étaient déjà très endettés. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de rebond, qui voulait être déjà mis en place en 2012, après la crise des dettes souveraines européennes, et maintenant on appelle ça coronabond, parce que c'est la crise du coronavirus, ils sont allés chercher ça excessivement loin. Parce que tout de même, on rigole, mais ces pays du nord de l'Europe, ils regardent toujours un petit peu les pays du sud de l'Europe, coucou la Grèce, avec un certain dédain, parce qu'ils pensent toujours que c'est un petit peu des latins, c'est quand même un petit peu pas des branleurs, mais quand même, ils sont pas très réglo en termes d'économie, ils ne font pas preuve de rigueur, ils ne font pas trop preuve de pragmatisme, et quand même, on peut pas concéder tout à ces feignants, comme dirait Emmanuel Macron, je ne concéderai rien aux feignants, et là, écoutez, encore une fois, ils n'ont quasiment rien accordé, malgré le fait que, on dise le contraire dans la presse. En fait, si, ils ont quand même un petit peu concédé quelque chose, c'est sur le fait qu'ils ont réactivé le mécanisme européen de stabilité sans lui donner de conditionnalité. Déjà, le mécanisme européen de stabilité, en fait, c'est une sorte de fonds. C'est la Banque Centrale Européenne qui vous prête de l'argent, qui vous le donne. Je n'ai pas les thématiques proches. Je ne suis pas forcément un très grand économiste et j'essaie quand même de vous expliquer. Bref, elle vous fournit de l'argent et cet argent est soumis à ce qu'on appelle une conditionnalité. Alors à la base, c'était vraiment pour aider les pays en difficulté. Je parle particulièrement peut-être de un ou deux, pas pour soutenir tout le monde au global. Mais là c'est arrivé à ce moment-là où tout le monde doit être à peu près soutenu en même temps. Donc c'est un peu fâcheux, mais c'est comme ça. Mais par contre, ce prêt, ce don, cette fourniture d'argent est soumise donc à une conditionnalité. Et cette conditionnalité, elle est de faire de la cure d'austérité. Parce qu'en fait, on vous fournit de l'argent, mais derrière, tu comprends bien, il faut le rembourser. Alors tu vas pas le rembourser au long cours, faut pas déconner. Donc il faut le rembourser assez rapidement. Et quoi de mieux que pour rembourser l'argent que de faire une magnifique cure d'austérité, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et quand je parle d'austérité, bien évidemment, je ne parle pas à vouloir réduire par exemple le salaire du chef de l'État. Abuse quelque part, ça fait pas assez. Mais vous comprenez bien, c'est le démantèlement de tout ce qui coûte cher. Donc les services publics, ça coûte cher. On pourrait aussi peut-être, privatiser toutes ces entreprises. En plus, l'État, il n'est pas là pour ça. Il est pas là pour gérer des aéroports. Il n'est pas là pour gérer la SNCF. Il n'est pas là pour gérer la poste. Il n'est pas là pour gérer l'électricité. Il n'est pas là pour gérer les autoroutes. Non, l'État n'est là pour rien. Donc, il est là Pour privatiser, ça par contre, il peut le faire. Et donc, vous comprenez facilement et aisément, je l'espère, qu'avec ce type de mesure, ce n'est pas avec ça que nous aurons des retraites pour vivre dignement, c'est pas avec cela que nous aurons des masques pour le personnel hospitalier, ce n'est pas avec ça que nous aurons des lances à incendie pour aider les policiers. Par contre, il restera toujours un petit peu d'argent pour s'acheter des LBD et des lacrymos. Mais ça, bon, vous savez, quand quelque chose ne passe pas, il faut peut-être leur expliquer un petit peu plus fort, c'est-à-dire à coup de matraque. Et là, j'espère aussi que vous avez compris ce que je voulais en dire au tout début de ce programme, c'est-à-dire la paix des cimetières. Alors, il y a la version Kant de la paix des cimetières qui se rapproche de cette vision que j'en ai, à savoir que c'est la paix éternelle, hein, c'est la paix qui ne peut pas être perturbée. Moi, je vais un petit peu plus loin. Quand je dis la paix des cimetières, eh ben, c'est vraiment la paix des morts, c'est-à-dire que les gens qui pourraient pas être dérangeants, mais les gens qui pourraient justement se rebeller contre le système, je parle pas vraiment d'un dissident pur, je ne le nomme pas, mais vraiment des gens qui pourraient être en colère contre le système, eh ben, on les amène au cimetière tout simplement. Et il y a un pays qui illustre parfaitement ce constat, c'est la Grèce, qui a subi une très légère cure d'austérité, c'est-à-dire que la plupart des jeunes qui étaient en plus diplômés, donc c'est-à-dire que pour arriver diplômé en Grèce, c'est tout de même l'État grec qui investit, donc qui met de l'argent dans sa jeunesse, eh bien ils sont, eux, qui étaient en capacité d'aller voir ailleurs, ben, ils sont tout simplement allés voir ailleurs, ils sont allés monnayer leur talent à l'heure, et on leur en veut pas trop. Par contre, eh bien, ceux qui devaient rester là-bas, donc ceux qui n'avaient pas d'argent pour bouger, ceux qui n'avaient pas les qualifications non plus pour bouger, eh bien ils sont restés sur place et ils ont subi le pire. Ils ont subi l'infamie, et que d'ailleurs, cette infamie a été validée par des gouvernements de droite, comme d'extrême gauche avec Syriza, même si extrême gauche peut être nuancé, tout de moins de gauche du gouvernement. Et autant vous le dire, tout a dégringolé là-bas. Les retraites, le système éducatif, le système de santé, les habitants sont exaspérés, le nombre de morts a bondi, le nombre de suicides a bondi, les gens qui n'arrivent plus à se traiter parce qu'ils ne trouvent plus leurs médicaments, ou alors carrément n'ont plus les moyens de les prendre, parce que ben, quand on dérembourse tout, ben, tout devient inaccessible. Eh bien, tout cela a bondi, et tout cela aussi, c'est un exemple de cette paix des cimetières. Nous leur avons fait payer un tribut formidable, parce qu'en fait, ce qu'ils ont voulu sauver, ce n'est pas la Grèce, c'est l'euro, directement. En tout cas, même s'il fallait faire un petit peu un exemple, parce que, quand même, c'est un pays du Sud, ils étaient un petit peu dilettants, vous voyez, fallait marquer un temps d'arrêt, fallait un petit peu s'arrêter sur eux, fallait se concentrer sur eux un petit peu. Mais malgré tout, nous, en France, et tous les autres pays européens, pour la plupart, ont payé tout de même leur tribut à cette austérité, à cette contraction pour éviter que, bah, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est dans les traités européens, il faut les lire, faut pas d'inflation, faut pas trop que ça bouge, j'ai jamais compris trop l'utilité, c'est pour ça que je n'arrive pas à vous l'expliquer, mais en fait, bon, l'idée elle est là, mais aussi nous en payons le tribut aujourd'hui, et nous risquons sûrement d'en repayer encore le tribut, parce que quand tout passe par le filtre de l'économie pure et simple, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où un État est endetté, il y a encore plus de risques d'être endetté, parce qu'en plus, il peut aller sur des marchés pour s'endetter encore plus, donc c'est-à-dire que le poids, qu'on s'appelle les intérêts de sa dette, encore augmente, enfin c'est une espèce de course à l'échalote infinie de l'endettement. C'est un petit peu ce qui arrive, alors, pour une vision proche, l'Italie, et pour une vision plus éloignée, nous avons le Japon, où la dette publique du pays s'élève à plus de 250% du PIB. C'est-à-dire que le pays devrait travailler pendant plus de 2 ans et demi pour que la dette soit résorbée. Bien évidemment, je ne vous parle pas des intérêts de la dette, c'est surtout ça qui fait grimper les dettes en fait, qui elles sont, c'est les intérêts deviennent colossaux, et c'est ça qui fait qu'en fait les dettes gonflent à ne plus en finir, parce qu'à partir du moment où on a ces intérêts, ça ne finit vraiment jamais en fait. Et il faut toujours un petit peu s'endetter, donc finalement, voilà, ça ne finit jamais. Après, j'essaie de vous vulgariser, mais ça reste aussi de l'économie, donc ça reste très complexe quand on commence à rentrer dans les détails. Même si on pourrait dire que la Grèce, le Japon, l'Italie ont une dette élevée, elles n'en ont pas le même résultat. C'est-à-dire que la Grèce, elle est endettée parce qu'elle avait des parts à l'extérieur, alors que le Japon a investi pour acheter de la dette sur d'autres pays, parce que ça aussi, on peut le faire. Hein, c'est d'ailleurs ça qui est tout le merdier. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est un État beaucoup plus sain que d'autres. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'Italie. L'Italie a une dette bien plus élevée que celle de la France. Mais quand on dit qu'il faut soutenir les Italiens, on a vraiment le fait d'être humain à être humain, d'être solidaire. Mais aussi, on a sur le plan, ben, malheureusement, de ce mot très dégueulasse qui est le pragmatisme, et le fait que je crois que les banques françaises détiennent 400 milliards d'actifs sur la dette italienne. Voilà, 400 milliards d'actifs. Donc si l'État italien fait sécession avec l'Union européenne et quitte la zone euro avec perte et fracas, par exemple, ou s'il se met en cessation, il se met en, pour presque dire en cessation de paiement, il peut plus honorer sa dette, et nous en France, on en paierait aussi un très très lourd tribut du premier coup. Alors, je vais quand même un petit peu revenir à mon mécanisme européen de stabilité. Donc, je vous ai expliqué un petit peu les contours. Si vous voulez, dans ce mécanisme européen de stabilité, il y a toujours une conditionnalité. C'est dans le droit. Voilà, c'est inaliénable. Mais ils ont décidé un petit peu de la diluer ou de la cacher. Déjà pour le compte rendu final de cet Eurogroupe, pour dire, écoutez, c'est formidable. Mais la conditionnalité existe toujours. Sauf que cette fois-ci, la conditionnalité a été effacée pour devenir une sorte de... Si c'est pour les dépenses de santé, alors la conditionnalité n'a pas coût. Sauf que, grande question, c'est quoi des dépenses de santé? Alors vous allez me dire, si j'achète des masques, c'est des dépenses de santé. Si j'achète des blouses, c'est des dépenses de santé. Si j'achète des médicaments, c'est des dépenses de santé. Très bien. Si je fais construire un hôpital, peut-être des dépenses de santé. Pour certains, oui. Peut-être pour d'autres, non. Si je décide de donner une prime, de faire une augmentation à mon personnel hospitalier, est-ce que c'est des dépenses de santé? Je pense que pour certains, oui. Moi, je pense que pour un petit peu quelqu'un qui est un petit peu dans une certaine forme de néolibéralisme économique, je ne suis pas sûr à 100% que ça fasse partie strictement census de quelque chose qui pourrait être sanitaire. Et c'est là qu'on en arrive au cœur du problème, c'est-à-dire que l'Italie, bon gré mal gré, parce qu'eux, ils sont bien emmerdés, il va se poser grande question d'accepter ce mécanisme ou pas. Grande question, parce que pour l'instant, rien n'est tranché. Il s'expose à avoir débarqué ce qu'on appelle la Troïka, donc c'est la Commission européenne, c'est le FMI et c'est la Banque Centrale Européenne qui vont venir feuilleter tes comptes et te dire ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Sinon, le pognon qu'on te doit, on va venir le chercher avec les dames. Et selon moi, ce n'est pas de la solidarité. C'est un faux-né. Voilà, c'est, on nous fait croire que c'est de la solidarité. Quand on enlève le faux-né derrière, en fait, il n'y a rien. C'est pingre. Voilà, tout simplement. C'est de vils calculs de boutiquiers. Parce que, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, l'économie, quand on s'y penche pas vraiment. Mais un État ne se dirige pas comme une entreprise. Non, un État ne se dirige pas comme un ménage. L'État n'est pas qu'une finalité. Nous, quand on fait mal nos finances, quand on les bascule mal, nous en sommes, on est vraiment le dernier échelon possible. Je crois que pour réduire l'échelon encore moins, c'est impossible. Sauf que l'État, il est à la fois garant de dette, il est à la fois prêteur, il est à la fois créateur, il fait beaucoup de choses, hein. il est interventionniste, il fait énormément plus de choses que... Voilà, c'est pas nous, quoi. C'est structurellement, c'est pas nous. Et c'est vrai qu'arriver à ce calcul de boutiquier, parce que oui, la dette de la dette de la dette de la dette de la dette... Et le problème, c'est ça aussi, c'est qu'en pensant tout par la dette, la dette, la dette, en fait, on en est presque obligé de tout réduire au minimum, parce que rien ne peut subsister autre que la dette. Et c'est aussi une preuve pour dire, écoutez, si on fait des réductions ici, là, partout, à droite, à gauche, c'est à cause de la dette, tout ça. C'est pareil, c'est un argumentaire qui permet toujours de tout dilapider, alors que pourtant, de l'argent, il y en a, hein. Quand on voit les dividendes qui se servent, quand on voit les entreprises qui vont faire de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale, c'est bien grand mot, à droite, à gauche, pour économiser quelques deniers, et quand on voit à la fin tout ce qu'ils arrosent, les actionnaires, c'est là qu'il faut probablement se poser les vraies questions. Elles sont là, les vraies questions. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas avec des plans comme ça que les hôpitaux ils vont aller mieux, c'est pas comme ça qu'on aura de meilleurs services publics. Ça par contre, si tu veux continuer à faire le con sur un Vélib, j'exagère, si tu veux faire le con sur une trottinette électrique, que t'as payé à Uber machin ou je sais pas quoi, nickel, par contre, là tu seras bien heureux, tu pourras faire ton vélo taf comme tu veux. Par contre, si un jour t'as le malheur de vouloir prendre l'autoroute, t'auras le malheur de vouloir prendre le train, t'auras le malheur de je ne sais pas quoi d'ailleurs, t'auras le malheur de tomber malade, eh ben, grand bonheur à toi. Parce que le pire dans tout ça, c'est déjà cette austérité qui est mise en place, ce néolibéralisme vraiment de faut faire attention à tout, faut pas dilapider l'argent, il n'y a pas d'argent magique, qui a fait qu'on en arrive à la situation dans laquelle on en est aujourd'hui. Alors le virus, on n'a pas pu le prévoir, mais il y avait des choses quand même que, voilà, une sorte de souveraineté du médicament, médical, bref, on aurait quand même un peu plus de champ d'action si on avait été légèrement plus pour du vrai pragmatisme cette fois-ci. Eh ben non, en fait, ce qui t'a fait du mal et qui t'aura fait du mal, et comme ça t'a fait du mal, tu demandes de l'argent, et bien après on va revenir te piquer le pognon, te le redemander l'argent, et on te fera faire encore pire que ce que tu avais fait avant. Et c'est là le gros nœud du problème. C'est là où il faut réfléchir. Et par contre, je vous ai pris ça sous l'angle de l'Union Européenne. Parce que j'avais, c'était l'exemple le plus frappant. D'autres États peuvent faire des choses avec la monnaie, tout ça, etc. Mais cela ne reste qu'un exemple parmi tant d'autres. On pourrait être hors de l'Union Européenne et faire exactement le même merdier, voire pire. On pourrait faire mieux, on pourrait faire pire. Les deux choix sont possibles. Ce ne sont que des orientations politiques, mais du vrai politique, c'est-à-dire du moyen et du long terme. C'est ça que je veux mettre. Parce qu'après, ça, on aura beau être un État souverain, ou mettez les mots que vous voulez, ça n'empêchera pas les agences de notation de nous dire « Ouais, finalement, ton pays, il est mal tenu », et du coup, de nous faire exploser encore un peu plus la dette. Ça n'empêchera pas non plus les marchés financiers d'être requins, et ça n'empêchera pas non plus les gens qui nous dirigent de se dire « Non, mais finalement, l'État, il n'a pas vocation à faire ceci, à faire cela, ou il a trop vocation à faire ceci ou à faire cela, et à faire peu ou prou n'importe quoi, je sais pas. » C'est vraiment un exemple que je donne, il n'y a pas volonté de dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc, je pense que s'il faut vraiment réfléchir à quelque chose, c'est ce que j'aimerais vous donner un petit peu le goût, ce serait de vous pencher un petit peu sur l'économie. Parce que finalement, l'économie, c'est ce qui, et la finance même aussi, c'est ce qui baigne tout autour de nous, c'est ce qui nous a aussi fondé, malheureusement, en termes d'individus, parce que il faut bien faire cuire la marmite, il est là. Faut gagner sa vie, encore une fois, vous voyez, gagner sa vie, donc ça veut tout dire. Et c'est vrai que je sens qu'il y a un certain détachement des gens, parce que ça paraît complexe. Oui, ça l'est quand même, hein, grosso modo. Mais il y a des gens qui vulgarisent très bien cela. Moi, je suis deux personnes qui sont, ma foi, très intéressantes, dont David qui est là, et nous avons aussi Frédéric Farah, qui sont des économistes, mais qui prennent le temps de un petit peu déconstruire certaines choses pour vous l'expliquer. On a aussi Thomas Porcher, qui le fait plutôt bien sur d'autres thématiques, lui, mais qui le fait très bien aussi. Et c'est vrai que c'est des gens qui essayent d'apporter un petit peu de lumière à ce monde très opaque de l'économie et de la finance. Et c'est pour ça que vous devriez commencer à vous intéresser à quelque chose, ce serait à ça, parce que quand même, c'est quelque chose qui structure notre monde et notre pensée. Et c'est, selon moi, très important d'y penser, parce que ça sera pas en faisant exactement les mêmes conneries qu'on va changer la tournure des choses. Ce n'est pas, par exemple, avec du capitalisme vert, qu'on risque de changer grand-chose. Alors peut-être, parce que c'est vert, c'est un peu mieux, hein, mais c'est un peu ripolliné, comme diraient certains, mais ce n'est pas forcément mieux. Et ce qu'il faut éviter, le tout, c'est ce que j'ai dit au début de cette émission, et ce qui fait le mot de cette émission, c'est qu'à trop vouloir tirer sur la corde de l'argent, la seule chose concrète, c'est la paix des cimetières. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt dans Force et Houblon, chronique d'un enfermement.